On veut ouvrir la parole de Dieu et j'espère que vous avez pensé à prendre vos Bibles. La Bible n'est jamais en vacances. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Voilà, il y a des grosses, des petites, des vertes et des pas mûres. Voilà, que Dieu soit béni. On va partager un thème ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est parti avec mon épouse, mes enfants, le mois dernier, ça passe vite, hein. Voilà, on a passé quelques vacances sur l'île de la Martinique, on s'est régalé. Merci d'ailleurs encore pour vos prières. Je ne sais pas si j'ai bronzé ou pas, mais en tout cas, on s'est régalé. Et puis, on a eu l'occasion d'aller au parc zoologique, le seul parc zoologique d'ailleurs de l'île de la Martinique se trouve entre la ville donc du Carbet et la ville de Saint-Pierre. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup la nature. Et surtout les animaux qui sont divers et variés. Et surtout, eh bien, ces animaux, quand on les observe dans leur comportement, dans leur attitude, eh bien, il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Et c'est ce que d'ailleurs rappelle Job, notre ami Job, dans Job chapitre 12 et le verset 7. Voilà un premier verset que je vous propose de prendre avec moi. Job chapitre 12 et le verset 7, il nous est dit, c'est Job qui parle, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. » Et en effet, on le voit souvent dans la Bible, cette parole utilise certains animaux pour nous apporter quelques enseignements spirituels et nous communiquer quelques sagesses. Par exemple, le roi Salomon, dans son livre, le livre des Proverbes, nous invite à maintes reprises à imiter la sagesse de petits animaux. Vous savez certainement de qui je veux parler. Par exemple, la fourmi. Fourmi insignifiante, mais qui, involontairement, inconsciemment, nous donne une merveilleuse leçon de sagesse, puisqu'il nous est dit que la fourmi, pendant l'été, prépare, engrange la nourriture qui va lui servir pour l'hiver. Et là, ça nous parle bien sûr d'être prévoyant. Il faut que nous apprenions à être prudents. Et je me parle aussi à moi-même, hein. Et puis on parle également de ce qu'on appelle donc la sauterelle, qui dans certains pays d'ailleurs se déplace par essaim, littéralement. Et bien sûr, ça nous parle de l'efficacité ou même le potentiel qui se trouve dans l'unité. Quand on est seul, on peut faire certaines choses, mais quand on est ensemble, unis, alors là, on multiplie nos forces. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, toujours sur ce même thème, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions nous attarder sur un animal au travers duquel Dieu désire nous tenir en garde. Et cet animal, c'est ni plus ni moins le renard. Avez-vous déjà vu un renard ? Lors de la préparation, j'ai voulu même vous montrer, vous afficher, vous trouver une photo d'un renard. Ce petit mammifère qui n'est pas plus haut que 40 cm, qui a un beau pelage, très convoité d'ailleurs. C'est faisant partie de la famille des canidés, qui ne connaît pas le renard, surtout le renard roux. Alors, je ne vais pas faire un cours là de... j'irai pas plus loin. Mais nous ne sommes pas aussi sans savoir la réputation du renard. Il est le type même de la flatterie. Il est aussi le type même, en tout cas l'image, du mensonge, de la ruse, de la malice. Allez demander à cet écrivain, poète, Jean de La Fontaine, tous les contes, les fables qu'il a donnés concernant le renard. Vous connaissez celui-là, le corbeau et le renard. Je n'en dirai pas plus et je ne citerai pas cette fable. Bien qu'étant un animal de petite taille, on sait aussi que le renard il est capable de faire de nombreux dégâts, surtout dans les cultures donc des hommes. Et on a, par exemple, on voit dans la Bible, le juge Samson, qui à un moment donné, vous le savez, a rassemblé 300 renards, les a attachés par paire et a fait un ravage parmi les champs des blés des Philistins, qui à l'époque étaient ni plus ni moins les ennemis du peuple d'Israël. On peut lire cette histoire dans Juges chapitre 15, versets 4 et 5, ne le cherchez pas. Mais je vous le lis, Juges chapitre 15, versets 4 et 5. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Déjà, pour attraper 300 renards, il faut se lever tôt. Hein. Mais il l'a fait, il l'a fait. Vous voyez, ce petit renard est capable de faire un bien de grands massacres. Et il y a aussi d'autres exemples, par exemple dans la Bible, un bien qui témoigne effectivement que ces renards sont capables de pouvoir occasionner de grands ravages. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, par exemple. Il nous est dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et il faut croire que les renards étaient bien plus que jamais connus pour leur action destructrice concernant les cultures, des champs, concernant bien toutes sortes de cultures, entre autres, ici en l'occurrence, les champs de vignes. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et je crois que ce verset, bien le Seigneur veut bien nous interpeller au travers de ce qui est dit. Il y a pour nous, ce matin, un enseignement spirituel au travers de ce verset. Alors, peut-être faire un parallèle. Les vignes dont il est fait mention ici, on peut en faire un parallèle avec la vigne de notre cœur. La vigne est l'image de notre cœur. Et puis quelqu'un me dirait, mais alors les renards, ça représente quoi ? Ben les renards, ça représente tout ce qui pourrait venir s'infiltrer dans nos cœurs et finalement y occasionner toutes sortes de ravages. Rappelez-vous ce que, par exemple, les ennemis du peuple d'Israël ont déclaré en voyant les Juifs, vous savez, quand ils sont retournés de la captivité, ils avaient eu le feu vert pour pouvoir revenir à Jérusalem pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et certains peuples aux alentours étaient hostiles à cette reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et ces ennemis du peuple hébreu, du peuple d'Israël, ont exprimé la chose suivante. Néhémie, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 3, on peut le lire ensemble. Néhémie, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, ce peuple ennemi du peuple d'Israël, voyant les Juifs reconstruire la muraille, se sont dit ensemble, « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, « Devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Je souligne avec vous, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Et là encore, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que quelque part le renard est utilisé au sens figuré pour signaler un malheur qui pourrait s'abattre sur les Juifs qui étaient en train de reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais voyez-vous, quand on lit la suite de cette histoire, Dieu n'a pas permis que cette menace s'accomplisse, gloire à Dieu, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu aime le peuple d'Israël, et Dieu nous aime également ce matin. Dieu veille sur son peuple, Dieu veille sur chacun d'entre nous. Et ce matin, de la même manière, Dieu ne veut pas que des renards, excusez-moi l'expression, des renards spirituels, viennent quelque part saccager nos cœurs. Et disons-le, en fait, finalement, ces renards, ce sont ni plus ni moins des péchés. Des péchés, peut-être quelquefois subtils, qui pourraient venir s'infiltrer dans nos cœurs et nous empêcher d'avancer. Et il s'agit pour nous ce matin de pouvoir non seulement débusquer ces renards, mais aussi les extirper, les chasser de nos cœurs. Amen. Et je vous propose justement pour ce matin de pouvoir quelque part dénoncer 5 de ces renards spirituels. Est-ce que vous voulez les connaître ? On va les débusquer, on va les désigner, on va les pointer du doigt. Et si vous voyez qu'un de ces renards se manifeste au nom de vous, à ce moment-là, au nom de Jésus, vous les chassez parce que le Seigneur, il veut que nous puissions être fin prêts, parce qu'il revient bientôt, il est à la porte. Alors, premier renard que je vous propose de regarder, alors c'est donc très rapidement, on va survoler ces cinq points, cinq renards spirituels. C'est premièrement le renard de la paresse, le renard de la oisiveté. Alors là, j'entends pas un seul amen. Hein. La petite, elle a dit amen. La paresse, c'est un fléau dont on ne parle pas assez, à mon sens. Et c'est peut-être à la faute des prédicateurs. On pense que c'est insignifiant. Il y en a même qui ne se rendent même pas compte, bien ils sont potentiellement des paresseux. Pourtant, il faut le dire, c'est un mal, littéralement, que nous devrions combattre avec virulence. Pourquoi je dis cela? Parce que la paresse peut occasionner, oui, de grands ravages dans nos vies. Pouvons-nous être chrétiens et en même temps être paresseux? Quelqu'un dit non. Et certainement pas sur Istres, hein, sur l'église d'Istres. Hein. Proverbes chapitre 6, versets 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Il fait mention de pauvreté, de disette. Et on peut le voir sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Lorsque je laisse le renard de la paresse venir s'installer au-dedans de moi, insidieusement, c'est la pauvreté, c'est la ruine, tant physique que spirituelle, matérielle, même de la vie. Vous savez, on a tous reçu un don de la part de Dieu. On a tous des talents, des capacités. N'allez pas me dire que vous, Dieu vous a oublié, c'est juste impossible. Et on se rend compte même des personnes qui arrivent à un certain âge ou à un âge certain, font un volte-face et disent « mais j'ai littéralement gâché ma vie ». Et ne cherchez pas. C'est des personnes qui étaient partisans du moindre effort. Ils faisaient juste le minimum et leur vie a été comme superficielle. Ils auraient pu aller plus loin, ils avaient des capacités qui étaient là refoulées, mais ils n'ont pas su développer ces choses. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous ce matin. La paresse nous réduit à la pauvreté et à la disette. La paresse nous empêche d'optimiser notre temps, nous empêche de nous épanouir finalement pleinement dans notre vie. Vous savez, ce n'est pas un scoop, on n'a qu'une seule vie. Hein. On n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on n'a qu'une seule vie. Et il est important, avec Jésus-Christ, de la vivre à pleines dents, excusez-moi l'expression. La paresse est aussi, surtout, ce qui peut nous empêcher de servir Dieu avec beaucoup de zèle. Il n'y a pas plus grand service. Vous savez, moi, j'ai eu un travail sur le plan séculier et je ne traînais pas les pieds pour aller au travail. J'aimais mon travail. Ça, c'est beau d'avoir un travail dans lequel vous vous épanouissez. Mais quel honneur de pouvoir servir Dieu. Ne serait-ce que même de passer la serpillière, c'est un service pour Dieu. De servir pour l'évangélisation les personnes perdues. Quelle grâce! Ce service, ça nous donnera même un fruit que nous allons voir jusque dans l'éternité. J'espère que nous sommes tous engagés dans ce service et que nous ne serons pas confus, comme l'a été ce serviteur paresseux, ou rappelez-vous dans la parabole que Jésus a donnée, qui avait reçu de la part de Dieu un talent, mais qui l'a enfoui dans la terre. Frères et sœurs, débusquons ce renard de la paresse, ce renard de la oisiveté. Ne nous reposons pas sur les autres, mais Seigneur, me voici, comment puis-je être utile pour ton œuvre? Afin que tu sois fier de moi. La Bible nous invite à racheter le temps, à être zélé pour servir Dieu. Il y a ce texte, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Servez l'Éternel avec joie, nous dit le psaume 100, me semble-t-il. Voilà un premier renard, et nous voudrions non seulement le débusquer, mais aussi le chasser. Mais il y en a un deuxième. Ce renard, on va l'appeler le renard des mauvaises paroles. Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30. Je vous laisse le temps de chercher ce passage. Éphésiens chapitre 4, les versets 29 et 30. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais au contraire, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi l'apôtre Paul nous invite à cela ? On le voit juste au verset suivant, verset 30. n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Suivant ce qui sort de notre bouche, soit on réjouit le cœur du Saint-Esprit ou soit on l'attriste. C'est ce que dit eh bien, ces deux versets. Toujours est-il, l'apôtre Paul dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ce qui sort de notre bouche traduit ni plus ni moins l'état de notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une corrélation étroitement liée. Le cœur et la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'ailleurs, eh bien, vous laissez parler quelqu'un et vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Alors la personne peut au départ s'arranger, mais les renards des mauvaises paroles reviennent vite au galop. Et à un moment donné, eh bien, voilà, on découvre que la personne, soit elle est une bénédiction, ou soit elle est malheureusement une malédiction, parce que de notre bouche, on peut aussi sortir eh bien, toutes sortes de malédictions, mais que Dieu nous garde aussi de ce renard. Vous savez, le seul remède qui puisse nous aider à toujours faire sortir de bonnes paroles, c'est le fait d'être ni plus ni moins rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous l'avez fait attention, on l'a même eh bien, exprimé au travers des chants. Être rempli du Saint-Esprit, voilà ce qui va nous permettre, eh bien, lorsque nous allons ouvrir la bouche, de bénir le prochain, de pouvoir être un sujet de bénédiction. Que jamais nous soyons connus comme quelqu'un qui, du matin jusqu'au soir et au matin, eh bien, n'avoir de cesse de critiquer. Il y a des gens, il faut que ça. Critiquer. Et ils ont raison parce que de toute façon, on est dans un monde parfait. Nous-mêmes, on est imparfaits. Moi qui vous parle, je suis imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Et rassurez-vous, ne soyez pas jaloux. Vous aussi, vous êtes imparfait. Et à cause de ça, et sur ce compte-là, sur cette base-là, on va toujours trouver des défauts. Mais toi, que fais-tu? Et es-tu une source d'encouragement ou bien une source de critique? Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Ah, le renard, il nous parle hein, ce matin. Le seul remède, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on manifeste les fruits de l'Esprit. Vous les connaissez, on les a étudiés dernièrement, je peux les citer. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, a dit quelqu'un, la bonté, la bénité, ou d'autres versions, la bienveillance, c'est la même chose, la foi, la fidélité, c'est pareil, la douceur, la maîtrise de soi. Que toutes ces choses puissent eh bien, accompagner, assaisonner, pleinement ce qui sort de notre bouche. Et on a besoin de dire comme eh bien, le psalmiste David, « Seigneur, mets une garde à ma bouche. » On peut prendre une résolution aujourd'hui et puis juste même le lendemain, à retomber dans ce travers. La Bible dit « Celui qui arrive à maîtriser sa langue parfaitement, c'est un homme parfait. » Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé d'homme parfait. Mais Seigneur, aide-nous eh bien, à faire des progrès eh bien, vis-à-vis de cet autre renard, aide-nous à le débusquer, à le chasser de nos cœurs, le renard des mauvaises paroles. Il y en a un autre que nous avons besoin de chasser de nos cœurs, c'est le renard de l'amertume et le renard de la rancœur. Hébreux chapitre 12 et le verset 15 nous dit la chose suivante. Hébreux chapitre 12 et le verset 15, il nous est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, point, virgule, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient quoi ? Infectés. Alors il y a plusieurs vérités qui sont exprimées au travers de ce verset 15. Il dit d'abord, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comment on peut se priver de la grâce de Dieu ? Eh bien, la réponse, elle est en tout cas juste après. En ayant eh bien, des racines d'amertume, en ayant eh bien, peut-être de la haine, en ayant peut-être de la rancœur au plus profond de notre être, nous pouvons inconsciemment nous priver de la grâce de Dieu. Ceci dit, j'ouvre la parenthèse, cette même grâce qui est capable de changer justement notre amertume eh bien, en véritable douceur, en véritable paix ou en véritable amour. Veillons à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et pour ce faire, il faut débusquer le renard de l'amertume, qui en plus de cela envoie cette deuxième vérité. Eh bien, quand l'amertume est là, il y a du trouble. Il y a du trouble déjà dans la personne eh bien, qui entretient cette amertume. Mais il y a aussi du trouble auprès de ceux et de celles qui sont à son contact. Ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On peut contaminer par notre amertume. Rappelez-vous, il y a quelques dimanches de cela, j'avais parlé sur le thème du pardon, et ce n'était pas prévu dans mes notes, mais je voulais juste donner ce témoignage. Quelqu'un est venu vers moi à l'issue de ce message et m'a dit « Moi, je pense que le Saint-Esprit me pousse à aller voir ma mère. » Et ce frère ne s'est pas contenté uniquement de dire des paroles, mais il a fait cette démarche d'aller voir sa mère. Il avait des choses à pouvoir régler avec sa maman. Et ce rapprochement, Dieu l'a vu. Et ce frère, eh bien, qui jusqu'alors attendait un travail, a vu la situation se débloquer 2 jours ou 3 jours après son passage auprès de sa mère. Et ça confirme ce que je vous avais dit la dernière fois. Lorsque nous prenons le temps d'extirper de nos cœurs toute forme de rancœur, d'amertume, il y a des choses qui se débloquent, car l'amertume est un point bloquant dans notre vie spirituelle. Et on avait vu aussi la dernière fois que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnerait pas non plus. Donc il y a comme une situation bloquée. Mais quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous choisissons d'ôter toute forme d'amertume, toute forme de rancœur, toute forme même de haine, se peut-il que nous soyons chrétiens et on est avec la haine contre quelqu'un ? C'est juste impossible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'amour. Amen. Je l'ai un petit peu escamoté ce témoignage, mais en temps et en heure, je crois que ce frère viendra lui-même et entrera dans les détails, parce que ce qu'il a vécu, même pour ce travail qu'il a trouvé, c'est presque un miracle. Et c'est pas presque, c'est un miracle. Et il le dira lui-même. Mais si on prend Dieu au sérieux, même par rapport à ce qu'il nous dit ce matin, alors nous allons voir des choses évoluer, être changés, débloqués dans notre situation. Alors, est-ce que vous voulez découvrir un autre renard ? La petite encore qui a dit oui, hein ? Elle suit, oui. C'est pour ça qu'il faut devenir comme un petit enfant. Simple comme un petit enfant. Oh Joël, ce que tu dis, je sais. Mais Dieu sait aussi ta situation. Tu veux d'autres dimensions, d'autres hauteurs. Tu veux monter sur les hauteurs de la montagne. C'est bien. C'est une belle aspiration. Mais est-ce que tu entends ce que je te dis ? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis ? Il y a un autre renard. Et ce renard, c'est le renard de la fausseté et du mensonge. Aimé, quand son frère, notre frère, nous a conduit dans ce champ, il dit, quand le rideau est tiré, voilà, on est là devant le Seigneur et on veut ôter de nos vies tout faux semblant, tout masque. On a besoin d'être vrai. Regardez ce qu'il est dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je ne sais pas si on peut aussi prendre ce passage, si peut-être aussi projeté, mais dans la version Parole de vie, 1 Pierre 2, verset 1, il nous est dit « Rejetez donc tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. » Et je trouve que cette version, la version Parole de vie, est plus parlante. Frères et sœurs, soyons des chrétiens authentiques. Et que nous puissions faire tomber toute forme de masque et tout faux semblant, surtout devant le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est omniscient, qui sait toutes choses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, la version Parole vivante, il nous est dit la chose suivante, Éphésiens chapitre 4, verset 25, version Parole vivante, c'est pourquoi défaites-vous du mensonge. Rejetez tout faux semblant. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans un même corps ? Oui, on parle du corps spirituel dont Christ est la tête. On a besoin de choisir d'être vrai. Et choisir d'être vrai, il faut le dire, c'est un véritable défi, un véritable challenge de chaque jour. Être vrai, c'est, quelquefois, cela va nous coûter cher. Mais ça vaut le coup. Parce qu'il n'y a rien de plus épanouissant que le fait d'être soi-même. C'est vrai ou c'est pas vrai ? À un moment donné, c'est fatigant de se donner un rôle. De jouer à quelque chose que nous ne sommes pas. C'est fatigant. Maître soi-même, on est libre, on est dans la paix, on est joyeux. La vérité est libératrice, la vérité est bienfaisante. Paul, d'ailleurs, pour la petite histoire, a cité la vérité comme la première arme que le chrétien doit avoir sur lui afin de tenir ferme face à l'adversité. Rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 6, ayez à vos reins quoi ? La vérité pour ceinture. On aurait pu dire, mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas mis, par exemple, l'épée de l'esprit ou le casque du salut ou même le bouclier de la foi en premier lieu ? Non, il a parlé de la vérité. Voilà la première arme que nous devons avoir les uns et les autres. Que Dieu nous aide également à débusquer, à déloger de nos cœurs le renard de la fausseté et du mensonge. On en est arrivé à quatre renards. Je vous ai parlé de cinq. Il y en a un cinquième. Et vous avez compris dès à présent que la liste n'est pas exhaustive, mais je ne veux pas être long ce matin. On pourrait aussi parler du renard, de tout ce qui est contraire à la vie de sainteté, à la vie d'intégrité à laquelle Dieu nous appelle. Oui, le renard de l'impureté, de l'impudicité. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8, la chose suivante. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 8. Ce que Dieu veut, c'est quoi ? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Il parle de fraude, de cupidité dans les affaires. Le Seigneur, il voit comment nous agissons les uns vis-à-vis des autres. Il faut qu'on soit juste, à plus forte raison, à l'égard des frères et des sœurs. Parce que Dieu, il voit toutes ces choses. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et il rajoute, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le renard de l'impureté, de l'impudicité, est certainement l'un des plus dangereux. D'ailleurs, Paul nous demande, face à ce renard spirituel, de ne pas essayer de jouer avec, mais juste de fuir. À plusieurs reprises, il est dit « fuyez l'impudicité ». Et prenez l'exemple de cet homme qui était là dans une situation bien particulière, puisqu'il était avec la femme de Potiphar, je fais mention ici de Joseph. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui, quitte à laisser son, et donc sa tunique. Mais il a fui face à l'impudicité. L'impudicité, tout comme ce qui est contraire à la sainteté, nous prive de la vie éternelle. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut ? Je dis oui. Si, après avoir connu la grâce de Dieu, nous revautrons tout à nouveau dans des choses impures, souillantes, cela peut finalement, au fur et à mesure, faire fuir le Saint-Esprit de nos vies et nous donner à perdre le salut. C'est la réalité. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire la chose suivante, 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous savez, avec Dieu, on peut pas être plus clair. Et ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Il nous le dit avec amour. Il nous le dit parce qu'il ne veut pas que nous périssions, mais que nous soyons fin prêts pour son prochain retour. Oui, il y a toutes sortes de renards spirituels qui viennent et qui veulent saccager nos cœurs, qui veulent dérober la foi qui a pris naissance au nom de nous et qui nous permet de rester attachés et fidèles jusqu'au retour du Seigneur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu continuer la liste comme cela. Mais on va s'en arrêter là. Déjà, avec ces cinq renards, il y a de quoi faire. Tous ces exemples, toujours est-il, et je le dis en conclusion, Tous ces exemples que nous avons vus ensemble sont autant d'attitudes, autant de comportements qui nuisent à notre vie spirituelle. Ce sont ces renards spirituels que nous devons débusquer et chasser de nos cœurs. À nous, ça c'est notre part, c'est ce qui nous incombe. À nous de les reconnaître, tout simplement, avec vérité, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, les reconnaître, si, eh bien, ils sont dans notre cœur. Et puis, à nous ensuite, de les confesser à Dieu. Vous savez, on a un Dieu merveilleux, un Père qui est bon pour chacun de ses enfants. Il sait que nous sommes encore en devenir et que nous avons encore beaucoup à travailler, eh bien, la sanctification. Et il s'agit pour nous de venir vers lui et d'avouer, de confesser notre péché et dire « Mais Seigneur, il y a certainement encore de ces renards spirituels dans ma vie. Et il y en a un que je voudrais te désigner. Et je voudrais non seulement que tu me pardonnes à bien de ce péché, mais aussi que tu m'aides à pouvoir l'extirper de ma vie. Amen. » Est-ce qu'on est capable de dire ça au Seigneur ce matin? Je vais terminer juste par une prière de confession magnifique qu'exprimait le prophète Jérémie en son temps quand on lit dans Lamentations chapitre 5, les versets 15, on ira même jusqu'au verset 21 et puis on terminera par cela. Lamentations chapitre 5, versets 15 à 21. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Il fait un constat, Jérémie. Et il dit, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que finalement, nous avons péché. Et si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Et regardez ce qu'il écrit, c'est que les renards s'y promènent. On retrouve nos renards spirituels. Là aussi, il utilise une image pour parler bien de ces choses qui viennent nous nuire. C'est que les montagnes de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Verset 19, « Toi, l'Éternel, là, il donne un message d'espoir. Tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. » Et c'est le message d'espoir par lequel je voudrais terminer encore ce matin. Nous rappeler, certes, il peut avoir toutes ces formes de renards qui pourraient venir grouiller même et puis saccager nos cœurs. Mais il y a encore espoir en Jésus-Christ. Il suffit pour nous de lever la tête et de crier à Dieu. Lui, le Dieu vivant et vrai, le Dieu plein d'amour, il est capable de nous permettre tout à nouveau de revenir à lui, de revenir eh bien, à cette relation, cette communion avec lui. Parce que vous comprenez bien que ces renards nous empêchent d'avoir une véritable relation, une véritable communion avec Dieu. Et le Seigneur, il nous aime tellement qu'il a voulu ce matin nous parler de cette façon. Vous savez, le Seigneur, il ne nous parle pas pour nous faire plaisir. Il nous parle eh bien, pour nous apporter la vérité, cette même vérité qui est capable de nous affranchir. Et c'est pour moi et pour nous une marque d'amour de sa part. Alors on va juste baisser la tête, nous recueillir quelques instants. Et Dieu nous a parlé ce matin. Et voilà encore la question, que ferons-nous de ces paroles? Je citais 5 renards spirituels. On pourrait tout à nouveau les énumérer, peut-être quelqu'un les a-t-il déjà oubliés. C'est le renard de la paresse et de l'oisiveté. Puis après, on a parlé de ce fameux renard, le renard des mauvaises paroles. Et puis le renard de l'amertume et de la rancœur. On a aussi cité le renard de la fausseté et du mensonge. Et puis enfin, on a cité le renard de tout ce qui est contraire à la vie de sainteté, le renard de l'impudicité. Et il est important pour nous de faire silence face à la parole de Dieu, faire silence dans la présence de Dieu et recevoir la parole de Dieu avec douceur. Et si pour quelqu'un, quelqu'une, ce message fait écho, si quelqu'un a besoin ouvertement devant Dieu, de dénoncer un de ces renards. Je voudrais tout simplement vous encourager à vous lever. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, s'il vous plaît, respectons ces moments. Mais si quelqu'un voudrait en finir, en découdre avec un de ces renards qui ont été cités, levez-vous à votre place et Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce. Vous allez repartir non pas comme vous êtes entré. N'allez pas me dire que le Seigneur Il ne savait pas qui serait là ce matin. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Et parce qu'il nous aime, il fait mouche toujours lorsqu'il annonce sa parole. Mon frère, ma sœur, peut-être même toi qui viendrais pour là où les premières fois, qui a besoin même de te convertir. Tu es en mesure, Dieu t'invite à pouvoir te lever et te donner à Jésus-Christ pour que tu marches en nouveauté de vie, dans une vie de sainteté, de pureté devant Dieu. Lève-toi aussi à ta place. Y aura-t-il d'autres personnes qui ont besoin également de se lever? Merci Seigneur pour ceux qui ont ce courage. C'est pour ça que la Bible dit « dehors les lâches ». Il faut un certain courage. Et ce courage, il s'appelle, on peut aussi le nommer la vérité, être vrai, être simple, être humble. Et si tu reconnais, eh bien, ces renards et peut-être un autre dont tu connais le nom, lève-toi à ta place et le Seigneur te fera grâce. Ce qu'il désire, c'est que tu repartes, non pas comme tu es rentré. Après que j'aurai prié, par la foi, tu saisis la délivrance, le pardon que Dieu t'accorde, et tu repars de plus belle avec le Seigneur. Tu ne seras plus oisif, ni stérile pour l'œuvre de Dieu. Tu vas servir Dieu d'une manière particulière, dans le don, le talent que Dieu t'a donné, parce que tu refuses, alléluia, le renard, alléluia, de la paresse. Un autre va décider de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Attention à ce que tes yeux regardent, attention à ce que tu fais. Et le Seigneur veut t'aider à te débarrasser de ce renard de l'impureté. Pour d'autres, le renard de la vérité. Sois vrai avec toi-même. Pourquoi tu continues à rigoler ou même à sourire devant ce frère ou cette sœur dont tu as de l'aversion? Dieu veut te faire grâce ce matin, car il veut aussi que tu sois fin prêt pour le retour. Son retour proche et imminent. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Seigneur, c'est preuve que ta parole a pu trouver le chemin de leur cœur. Seigneur, Père mon Dieu, c'est entre toi et eux. C'est toi, Seigneur, qui viens au-devant d'eux et qui honore, mon Dieu, leur démarche de foi, hein, qui consiste à pouvoir répondre favorablement à ta parole. Et je te prie, Seigneur, en retour, Seigneur, de leur faire grâce, de pardonner leurs péchés, de sanctifier leur vie en cet instant, et que, Seigneur, pleinement, tu leur donnes une pleine délivrance, et que tous ces renards spirituels puissent, Seigneur, prendre la vol et être extirpés, chassés de leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, avoir la victoire sur toute l'adversité, sur, mon Dieu, la puissance des ténèbres qui voulait, Seigneur, les tenir captifs ou liés, Seigneur, Père, dans des choses, Seigneur, Père, qui sont répréhensibles devant toi. Je te prie dans ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, de briser toute forme de verrou et leur donner, Seigneur, à être libre et pouvoir courir dans la carrière qui leur est ouverte. Oui, de pouvoir servir Dieu avec joie. Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait un miracle qui se produise et qu'ils repartent, Seigneur, non pas comme ils sont venus, mais qu'ils repartent avec la grâce, la bénédiction, car ils refusent, Seigneur, Père, mon Dieu, tout ce qui n'est pas à ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, merci encore de toucher leur cœur. Merci de les sanctifier, de les purifier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et amen, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et peut-être amis qui vous êtes levés. Dieu a entendu, alléluia, et a vu surtout votre démarche. Il a vu, il a entendu votre prière. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.